Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h04, vous êtes de, bien sûr, RMC, c'est le retour des grandes gueules du sport en ce dimanche 31 juillet. On est ensemble en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marion Bartoli, Marie Martineau, Cyril Marais. Si vous avez raté les deux premières heures de l'émission, sachez que vous pouvez d'ores et déjà les retrouver en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement, à commencer par l'application. Vous commencez par là, évidemment. RMC, on a parlé de Pogba, on a parlé de Vettel, on a parlé du combat, du sport avec l'écologie. On a reçu Marion Rousse, madame la directrice du Tour de France Femmes, qui s'achève aujourd'hui à la planche, la super planche des belles filles. Et puis, il y a eu deux belles sessions de zapping. Hein. Je vous recommande l'avis de Cyril Marais sur l'étoile qu'arbore le Stade Lavallois sur son maillot pour symboliser le titre de champion de France de National 1. Cyril Marais qui se fait marave, je crois, par ses copains dijonnais.
Exactement, parce que dans l'euphorie, j'ai annoncé Geoffroy Guichard, mais non, bien entendu, c'était à domicile. Président Delcourt, si vous m'entendez, je tiens à m'excuser. Gaston Gérard à domicile, mais ça n'empêche qu'on les a humiliés.
C'était pour saluer la victoire hier de Dijon face à Saint-Etienne en ouverture de cette première journée de la saison de Ligue 2 2022-2023, qui est à suivre évidemment sur RMC. Un vrai supporter dijonnais, hein, le type savait même pas que Dijon jouait à domicile hier. Voilà, bon, Eratum, tout est pardonné à ceux qui reconnaissent leurs erreurs. À 11h30, on part sur le terrain, la route de la Classica San Sebastian, c'était hier, c'est Remco Evenepoel, le Belge, qui s'est imposé, le Tour de France 2023 qui partira de la cité basque. On sera tout à l'heure avec Arnaud Souk, mais pour l'instant, on part à Tel Aviv. Passer la seconde, à moins que ce ne soit que la deuxième.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
À la tombée de la nuit, les rues et les terrasses se remplissent.
Ça fait plaisir d'être là.
La ville ne dort jamais.
Bravo les gars ! Final !
Je m'attends à une équipe qui va démarrer fort la saison.
Il fait près de 35 degrés et la température continue de monter.
Le foot aujourd'hui, c'est fini.
C'est l'un des seuls Français à s'être imposé dans le monde de la nuit à Tel Aviv.
Ça m'a l'air donc de bien partir, de le travail de se mettre en place.
Une ville qui compte pas moins de 60 boîtes de nuit.
Je sais que Neymar, il aime bien les défis.
Le Valium.
Oui, je le connais très bien.
À sa tête, Jack, que tout le monde appelle Jack Tropé, un Français de 44 ans.
Il aura encore quelques rides de l'âge pour peaufiner certains déplacements.
Sa soirée a fait le plein. La fête ne s'arrêtera que le lendemain matin.
Vous aurez certainement reconnu, deviné la subtilité de Pierre Alish, notre immense producteur, à la construction de cette prod dont RMC a le secret. Ça vous a plu, hein,
mais il a l'air d'être en manque de boîtes de nuit, ton Pierre Alish.
60 boîtes de nuit, oui, Neymar aime les défis, effectivement.
Le Valium.
Ouais, il va être content, là.
Oui, le Valium pour une boîte de nuit, c'est un petit peu
ça compense tout de suite.
Bizarre, quand même. On demandera à Timothée Mémon s'il a eu l'occasion de s'y rendre dans un instant. Et le champion de Ligue 1 face au vainqueur de la Coupe de France, notre Community Shield à nous, hein, la Super Coupe, comme on dit ailleurs, 46e édition ce dimanche, c'est à Tel Aviv que ça se passe, puisque la Ligue de football professionnel, à l'origine de la renaissance de cette compétition en 1995, a pris l'habitude d'organiser ce premier match officiel de la saison de club à l'étranger. Désormais, c'est en Israël que ça se passe pour la deuxième année consécutive. Cette rencontre ressemble de l'extérieur plus à un produit marketing destiné à promouvoir notre championnat à l'étranger qu'à un vrai trophée convoité, désiré, respecté. Alors sur la musique qui fout les jetons, cette question, les GG, ce trophée des champions est-il un match d'exhibition ou une vraie compétition? Marion Bartoli.
Un match exhibition.
De l'exhibition pour Marion. Marie Martineau.
Ah, l'exhibition aussi pour moi.
De l'exhibition. Cyril Marais.
Exhibition également.
On a trois exhibitions, d'accord. Bon, écoutez, je vais me faire l'avocat de la Ligue de football professionnel.
Dans bien ce cas, sûr.
On va essayer de vous bousculer un petit peu sur vos arguments. Mais avant de vous donner la parole pour ce débat, enfin j'espère que ça va être un débat, puisque vous avez l'air tous d'accord, on accueille Timothée Mémon de la rédaction Foot RMC Sport en direct de Tel Aviv. Salut Timothée.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Salut.
Alors Timothée, ce Valium, c'était Timothée. Comment ça ferme à quelle
heure? J'étais au MH hier. Désolé, il y en a 60, j'ai pas pu toutes les faire du coup.
Ah bon?
C'est pas très pro ça.
Et tu restes un immense professionnel, on fait confiance, on te fait confiance, on sait que tu as essayé d'en faire le maximum. Je plaisante, en plus Timothée qui était en direct dans l'after et qui est ce matin dans les grandes gueules du sport, ça bosse un petit peu hein, sur le terrain. Timothée, pourquoi cette rencontre a lieu à Tel Aviv?
Eh bien, depuis 2009, la Ligue de football professionnel a décidé de faire de cette rencontre entre le vainqueur du championnat et celui de la Coupe de France un match clairement promotionnel. Alors certes, c'est un trophée façon Community Shield, mais c'est aussi une vitrine pour le football français. Donc, pour ce trophée qui est revenu aux affaires en 95, eh bien depuis 2009, ça se joue à l'étranger. Souvenez-vous, il y a eu des matchs au Gabon, en Tunisie, au Maroc, au Canada, en Autriche, aux États-Unis ou encore en Chine. Et cette année, pour la deuxième année consécutive, donc c'est à Tel Aviv que le trophée des Je pose ses valises. Très clairement, l'idée, c'est de sortir le football français de ses frontières et de permettre d'aller toucher des marchés peut-être habituellement moins impactés par le football français. C'est le cas ici à Tel Aviv. Pour autant, il y a un certain engouement pour deux raisons. La première, c'est que à Tel Aviv et sur les plages de Tel Aviv durant cette période estivale, il y a quand même beaucoup de Français. Et puis aussi parce que il y a cette curiosité de venir voir des joueurs comme Mbappé ou Neymar. Mbappé ne sera pas là ce soir puisqu'il est suspendu. Neymar ou Messi. En tout cas, cette curiosité, elle est là, l'engouement est là. Et puis, il y a vraiment cette volonté de se servir de ce match comme d'un produit d'appel pour la Ligue 1. La preuve, c'est qu'il fait partie d'un lot pratiquement bradé, associé au reste des droits de Ligue 1. Ce soir, ce match sera diffusé tout de même dans 170 pays dans le monde.
Tout de même, 170 pays dans le monde. Il sera diffusé évidemment en direct, en intégralité sur RMC. Tu seras aux commentaires. Timothée, tu vas rester avec nous, tu vas pouvoir intervenir dans ce débat et peut-être m'aider à faire contrepoids, à donner du crédit justement à cette rencontre, parce que nos trois grandes gueules pensent qu'il ne s'agit que d'un match exhibition. On ne regarde pas comme ça, Marie. Qu'est-ce que c'est que ce critère de défi, là, comme ça?
Le dire, j'ai hâte d'avoir tes arguments.
Hein, tu vas quitter ce petit ton et ce regard. Hein. Marie, on t'écoute. Pourquoi un simple match exhibition?
Alors, déjà une première chose, si tu tapes sur internet Trophée des Champions, et ben les premiers articles qui sortent, mais je te jure c'est pas des balles, c'est à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le Trophée des Champions. C'est-à-dire que c'est pas les enjeux du match.
Il y a la même chose pour les grands prix, pour les matchs de tennis.
Non, je te promets, c'est fou. Et à la limite, j'ai envie de te dire, c'est la première question que je me suis posée, c'est alors attends, c'est à quelle heure, c'est enfin comment ça se passe, sur quelle chaîne et tout, parce que voilà, on est dans l'été, voilà, on n'est pas dans le schéma classique de la saison et tout. C'est le premier trophée de l'été, enfin de la saison finalement, mais il est quand même en plein été, donc là on est plus en mode chassé croisé, maillot de bain et autobrosant, tu vois, et donc forcément le timing dans la saison fait que ça ressemble plus à de l'exhibition qu'autre chose. Après moi j'en ai marre, mais vraiment marre, de ce fantasme du marché à aller conquérir, tu sais, ce truc de il faut jouer là-bas parce qu'il faut aller convaincre les gens que notre football il est super et qu'il faut le regarder. Tu vois, ce truc là, que ce soit à Tel Aviv ou ailleurs, hein, c'est je sais pas, ça me fatigue quoi. Donc je suis pas sûr que les supporters nantais ou parisiens soient super ravis que ce match ait lieu là-bas quoi. Bon,
en tout cas moi je suis sûr que les supporters nantais seraient ravis que leur équipe batte le PSG,
ça, et remporte
le trophée des champions, ce qui donne du crédit un petit peu au poids de ce trophée
sportif.
Pour répondre à ta question, PSG Nantes c'est à 20h heure française, et si j'en crois ce que dit Timothée Mémon, puisque c'est vendu dans le lot du championnat, j'imagine que ce sera diffusé par le diffuseur des rencontres du championnat. Et en revanche, évidemment, c'est la question ne se pose pas du tout, ce sera diffusé sur RMC comme toutes les journées de Ligue 1. Vous savez qu'RMC est le temple du sport en live à la radio. Cyril, je te vois tout dépité. Toi, t'es pas emballé non plus par ce trophée des champions, ni le fait qu'il soit délocalisé à l'étranger.
Ouais, complètement. Après, pour moi, c'est un match, on va dire, même entre guillemets, presque de préparation. Je veux dire, la saison, elle démarre seulement. Un premier trophée, une vraie compétition, il n'y a qu'un seul match. Donc, tu ne peux pas parler de compétition. Pour moi, une compétition, il faut qu'il y ait quand même quelques matchs, ou enfin, au moins une phase éliminatoire, des choses comme ça. C'est un match qui va jouer avec un trophée au bout. C'est le premier match, un des premiers matchs de la saison. Bon, c'est partout, c'est dans tous les autres championnats aussi. On a vu un match très équilibré hier entre Leipzig
Et le Bayern.
Et le Bayern, il y avait 3-0 à la mi-temps et j'ai même zappé tellement que ça.
Ah, ils ont, ah ben oui, mais t'as raté une bien belle seconde période parce que ça a fini à 5-3 pour le Bayern, il y avait 4-3 pour Leipzig qui a failli égaliser.
Mais ce que je veux dire, c'est, on voit qu'il y a pas d'automatisme encore, il y a pas de repères et voilà, c'est un premier match de, à haut niveau, on va dire, un premier match à haut niveau de début de saison.
Et Marion Bartoli, tu es sur la même longueur d'onde que tes camarades?
Totalement, c'est un match de préparation pour la reprise de la saison. Alors cette année, la saison reprend beaucoup plus tôt parce qu'il y a la Coupe du Monde, donc ça reprend dès 5 août. Pour le PSG, ils quittent leur tournée au Japon. Donc tu fais une tournée au Japon, là tu viens faire un espèce de stop à Tel Aviv. Alors moi, je suis complètement raccord avec Marie, ce côté promouvoir le foot dans des territoires à conquérir. Enfin, je vois pas. À la limite, fais une tournée exhibition avec une équipe de France, tu vois, si tu veux vraiment conquérir un nouveau truc, mais d'organiser une compétition française comme ça à Tel Aviv, enfin, je trouve que ça a aucun sens. Pour les supporters qui veulent vraiment se déplacer, c'est quand même des coûts qui sont assez importants. Donc, de toute façon, c'est vraiment déclaré et dit par la LFP qu'entre guillemets, c'est pas les supporters français qui vont se déplacer, qui les intéressent, mais juste les gens qui sont sur place dans cette ville-là à un moment donné, de les faire venir au stade et de leur voir deux équipes françaises s'affronter. Donc effectivement, tu l'organises trois fois en Chine. Enfin, tu vois bien que ça, t'essayes d'aller dans des endroits en disant alors éventuellement si je peux refourguer les droits de télé de mon championnat dans ce pays-là, ça peut m'aider. Enfin, tu vois, c'est juste des calculs de d'argent. Donc où est le trophée là-dedans? Où est l'intérêt de la compétition? Je le vois pas du tout. Mais à la limite, fais ça autrement. Tu vois, t'as vraiment envie de dire, j'ai besoin effectivement d'argent supplémentaire et de droits télé supplémentaires dans des nouveaux marchés. J'organise ça différemment et pourquoi pas une tournée de l'équipe de France, des matchs exhibition appelés comme ça. Et puis, tu vois, tu fais, vraiment une tournée d'exhibition. Mais là, de se dire que tu vas faire juste un match comme ça à l'étranger, une fois tu vas passer en 24 heures avec tes stars et que d'un coup comme ça tu vas conquérir le marché. Enfin, je vois pas du tout l'intérêt. Alors Neymar, il va beaucoup s'amuser, il va pouvoir tester les boîtes de nuit de Tel Aviv, c'est super pour lui, mais en revanche l'intérêt global du truc, je le vois pas du tout.
Ah non, attends, Galtier il a dit c'est pas possible, là, fais pas les boîtes de nuit et tout, ouais. Là, tout le monde dodo 8h ce soir. Enfin, non,
voilà. Donc, du coup, et puis pas de téléphone portable au déjeuner, pas de téléphone portable au dîner, voilà. Alors à l'entraînement, attention.
Ah d'accord, on tira du lien, là, j'ai l'impression sur le PSG.
Non mais c'est un test.
Christophe Galtier, moi j'ai trouvé, toute parenthèse bientôt refermée, très touchant, parce que il n'a pas hésité à dire que c'était très spécial pour lui et que s'il y a bien quelqu'un qui changeait de dimension, c'était lui, en franchissant cette marche, en devenant coach du PSG. Je me tourne vers Timothée Mémon, qui sera au commentaire de cette rencontre ce soir. Timothée, tu as entendu les arguments de nos grandes gueules. Alors oui, même si c'est pour vendre notre championnat à l'étranger, si tel était le cas, pour vendre notre championnat, il faut quand même qu'on ait une rencontre de bonne facture. Les deux équipes, elles sont prêtes à livrer un gros match ce soir. A priori, elles se sont préparées pour ça.
Alors Simon, puisque je suis un bon camarade, je vais essayer d'apporter de l'eau à ton moulin, même si je ne suis pas sûr d'y croire. J'entendais dire qu'il y avait que pour que ce soit une compétition, il fallait qu'il y ait plusieurs matchs. Pour arriver à cette finale-là, il fallait être champion ou gagner la Coupe de France.
C'est vrai.
Donc les accessites, ils existent quand même pour cette compétition-là, pour cette finale entre guillemets. Pour ce qui est du match de ce soir, il y a une certitude, c'est qu'il y a un enjeu pour le Paris Saint-Germain, il y a un enjeu pour Christophe Galtier aussi, tu viens d'en parler, c'est celui de réussir son match officiel, de gagner un premier trophée, certes symbolique, certes c'est pas la Ligue des Champions, ça n'est pas le championnat de France, mais c'est un trophée tout de même. S'il le ratait, tout le monde lui tirerait dessus à boulet rouge. S'il réussit, tout le monde dira que c'est normal, mais c'est un petit peu le lot de tous les entraîneurs du PSG. Il faut donc pas rater sa rentrée pour Christophe Galtier. Il y a la volonté de réussir un bon match, de réussir quelque chose aussi en termes de jeu, prouver que le système en place va fonctionner pour le Paris Saint-Germain. Et puis, de son côté, Antoine Camboiré lui a parlé très clairement d'un match qui rentrait dans sa préparation pour le championnat. Reste qu'Antoine Camboiré, c'est un compétiteur par-dessus tout, oui. Et qu'il rêve de cet exploit. Et que lancer la saison nantaise, qui va être très longue avec la Coupe d'Europe, par une victoire dans le Trophée des Champions, par un exploit, un premier exploit, serait aussi fondateur pour cette équipe de Nantes. Donc, le Trophée des Champions n'a peut-être pas beaucoup de valeur à vos yeux, mais en tout cas, il a de la valeur pour ceux qui vont le disputer ce soir, parce qu'il a de l'importance avant cette saison qui commence très tôt et ouais. Qui sera très dans dense jusqu'à la Coupe du Monde.
C'est vraiment ponctuel et c'est vraiment rapport à ce match-là, quoi. C'est cette rencontre-là qui est intéressante. Je suis grave d'accord avec toi sur le face-à-face Comboire-Galtier, ces deux équipes, on sort du mercato d'été. Tout ça, c'est super chouette. Mais si tu prends du recul sur ce trophée des champions en règle générale, je comprends que tu sois dans difficulté d'aller dans le sens de Simon, c'est clair.
Merci.
Enfin, Timothée, en même temps, Christophe Béati va pas dire non, mais de toute façon, je m'en fous complètement. C'est un match de préparation et tout ce que je regarde, c'est comment on va être au début de la Champions League, tu vois. Donc, ils sont dans leur rôle, tout le monde est dans leur rôle, mais quand tu analyses de manière objective, l'intérêt du titre, il est quand même pas, ou du trophée, il est pas foufou, tu vois.
Mais alors, voilà. Justement, si je peux me permettre un bout d'avis, je pense que déjà il y a une erreur fondatrice, c'est de trophée des champions. Je trouve que c'est un nom vraiment un petit peu tarte. Super
Coupe. Ça fait longtemps.
Non mais la Super Coupe, c'est quand même assez mythique quoi dans le foot. Super Coupe, voilà, il y a pas de nom comme le Community Shield hein, hier remporté par Liverpool face
Comment
à
y a le choc des Titans, le clash
non,
des héros.
Non mais voilà, effectivement le matrix géant, tu vois. Genre, mais la Super Coupe, je trouve que ça aurait plus de gueule et je suis sûr que ce serait déjà un peu plus sexy, ça donnerait un peu plus de je sais pas de
Est-ce
sérieux.
Est-ce qu'ils vont rajouter une étoile sur le maillot s'il la gagne ou pas ? Ça c'est la grande question.
Super Coupe de l'univers.
tu voulais
intergalactique. Bah, oui.
Non, mais je pense que bah, c'est surtout que voilà, c'est un match important, certes. Il y a une coupe, mais je veux dire, on ne tiendra pas de Galtier s'il perd ce soir. Et puis qu'il gagne la Ligue des Champions, voilà. Enfin, je veux dire, on ne retiendra rien, on ne retiendra pas ça. Après, à savoir par rapport au match qu'il y a eu pour se qualifier pour cette coupe, est-ce que c'est le premier match de la saison, est-ce que c'est le dernier match de la saison d'avant, enfin, tu vois, il y a quand même une grosse coupure au milieu.
C'est le match qui signe le retour du football de club.
Bien sûr.
Oui.
Timothée, est-ce qu'on a des petites infos sur cette rencontre? Est-ce qu'on sait? Alors évidemment, on va pas se le cacher, on attend la première composition de Christophe Galtier pour ce premier match officiel. Est-ce qu'on a des infos sur les joueurs et la formation que compte aligner Galtier ce soir?
Ça t'intéresse pas ce que fait Comboiré?
Oui, effectivement.
On en parle tout de suite après de ce que fera Comboiré. Voilà,
ouais. On va en parler derrière, mais effectivement, je commence par le PSG.
Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, il y aura très très peu de surprises hein, par rapport au 11, par exemple, qui a été aligné lors du dernier match amical au Japon. La différence, c'est que Kylian Mbappé sera suspendu. Il sera donc supplé par Sarabia, mais la composition, elle est plus que probable. C'est Donnarumma dans la cage, Marquinhos, Ramos, Kimpembe en défense centrale dans cette défense à 3, Nuno Mendes et Hakimi en piston sur les côtés, Vitinha, Verratti à la récupération dans l'axe et puis Messi en soutien de Neymar et donc Sarabia. Il y a vraiment pas beaucoup de surprises et on sent que Christophe Galtier veut très rapidement dégager un 11 type avec évidemment un effectif pléthorique qui lui permettra de faire de la rotation, mais ça devrait ressembler à ça. Et puis pour ce qui est de la composition d'Antoine Camboiré, là aussi il n'y a pas énormément de surprises par rapport à ce qui a été vu lors des matchs amicaux, même s'ils n'ont pas été très concluants du côté de Nantes. Il y a juste une interrogation sur la pointe de l'attaque. Il y a la possibilité de voir Guessant à la pointe ou Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien. T'as d'ailleurs, j'en profite pour vous donner cette petite information. Vous vous souvenez, l'année dernière Achraf Hakimi avait été conspué ici à Tel Aviv parce qu'il était marocain et parce qu'il avait pris des positions pro-palestinienne. Vraisemblablement l'épisode est refermé, d'autant que foot et politique vont de pair en Israël peut-être plus qu'ailleurs et que l'Israël a trouvé des accords avec le Maroc. En revanche, quid de la réception et de l'accueil pour Mohamed Mostafa, attaquant égyptien? Sa venue sur le sol israélien fait beaucoup débat en Égypte et son accueil ce soir sera scruté.
Effectivement, tu fais bien de rappeler que la géopolitique n'est jamais très loin du sportif dans ces régions-là. Je reviens sur les infos sportives quand même. L'info, c'est que Christophe Galtier est bien décidé à imposer cette défense à 3 hein, qui faisait fantasmer un petit peu les supporters parisiens et les observateurs du football en général la saison dernière. Et peut-être que un Sergio Ramos en bonne forme, hein, qui semble en pleine forme, notamment lors des entraînements parisiens, lui permet d'envisager de pousser dans cette option. Merci beaucoup Timothée d'être passé dans les grandes gueules du sport. On rappelle qu'on te retrouve aux commentaires de cette rencontre PSG Nantes, trophée des champions, premier match officiel de la saison ce soir en direct sur RMC à 20h. Merci beaucoup.
Et au Valium à 23h.
Ouais. Yeah. À 23, le temps de faire quelques petites interviews. Et puis,
à quelle heure demain?
J'ai pris tard.
Oui, et puis
voilà,
tu vas
ça, c'est du professionnalisme, c'est de l'organisation. Voilà.
On adore. Attention à Arthur Perrault, hein, tu gardes un œil sur notre ami Arthur qui a un petit peu moins d'expérience. Ouais, dans ce domaine que toi. Merci beaucoup, Timothée. On se retrouve ce soir sur RMC. Je vous rappelle qu'il y a ce PSG Nantes. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de supporters marseillais devant leur télé parce que ce soir, en match amical, Marseille reçoit l'AC Milan, hein, un match qui sent bon les années 90 en match de préparation. Et celui-ci, figurez-vous les amis, qu'il est à suivre sur RMC Story, RMC Sport 1 et RMC Sport UHD, si vous possédez le canal. Marseille qui poursuit sa préparation face à un vieux rival, hein, les Rossoneri. Vous restez bien avec nous, dans un instant, les grandes gueules reviennent. Et comme le veut l'essence de notre métier, on ira sur le terrain. Et encore une fois, c'est une route, celle de la Classica San Sebastian. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h29, c'est le retour des grandes gueules du sport dominical. On est ensemble en direct jusqu'à midi. Vous retrouverez alors les paris RMC autour de Benoît Boutron. On est aujourd'hui en compagnie de Marie Martineau, Marion Bartoli et Cyril Marais. À 11h45, c'est à vous de jouer les auditeurs. Vous avez entendu au cours de l'émission quelque chose qui vous a fait recracher le café, lâcher le panier du marché. Venez vous engueuler avec la GG qui vous aura agacé. Ce lien entre vous, les auditeurs et nos consultants, c'est l'une des promesses de RMC, vous le savez. Mais pour le moment, à 11h30, on revient à ce qui fait l'essence de notre beau métier. On part sur le terrain.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Et le terrain, c'est celui de la route de la Classica San Sebastian au Pays Basque, où l'on va retrouver Arnaud Souk, envoyé spécial de RMC. Salut Arnaud.
Salut, quel accent incroyable.
T'as vu, je me pince la langue. Je me suis fait un peu mal d'ailleurs là. J'y suis allé un peu fort.
Ah, je comprends. Ouais. D'ailleurs, il va voir le dentiste parce que ça va être compliqué.
La Classica San Sebastian. On a vécu cette arrivée et la victoire de Remco Evenepoel avec toi hier en direct sur RMC. Arnaud, on s'est régalé. Classique mythique s'il en est. T'es allé faire un petit tour au sommet du Monte Igueldo d'ailleurs. Tu as bien de la chance. Et tu t'es régalé de bonnes tapas hier. Tout ça pour nous amener à dire que cette Classica San Sebastian, elle a emprunté hier des routes qui seront celles du départ du Tour de France, du prochain Tour de France.
Et oui, parce qu'en 2023, on aura un grand départ, donc avec trois étapes au Pays Basque. La première qui sera d'ailleurs entièrement autour de Bilbao. Hein. C'est pas vraiment la route de la Classica San Sebastian, mais je me permets de vous en parler quand même. C'est une boucle entièrement tracée en Biscaye qui sillonnera les collines sauvages qui bordent la mer Cantabrique et passera notamment deux fois par Guernica, au lieu de mémoire, lieu de massacre lors de la guerre civile espagnole, lui immortalisé d'ailleurs par Pablo Picasso dans l'une de ses plus célèbres œuvres. Une étape aux 3300 mètres de dénivelé positif avec des ascensions courtes mais très difficiles. Typique finalement du Pays Basque, un programme que l'on retrouvera également le lendemain lors de la deuxième étape qui ne sera pas sans faire penser au tracé, donc là pour le coup de la Classica San Sebastian, disputée hier avec notamment le passage du mythique Jaizkibel, 8 km à 5% de pente moyenne et qui sera le juge de paix hein, lors de cette deuxième étape du Tour de France dans un an, une ascension où les coureurs ont pu hier se rendre compte du fanatisme, de la aficion comme on dit en espagnol, du public basque venu en très grand nombre. Écoutez Pavel Sivakov le français et Remco Evenepoel le Belge, respectivement deuxième et premier hier de la Classica.
Ouais, c'est sûr, ça va être un beau départ à Bilbao. Le Pays Basque, c'est toujours super. Les fans sont exceptionnels là, dans la dernière montée de Muriel. C'était incroyable. J'avais les oreilles qui sifflaient.
C'était incroyable sur la dernière montée. Même l'avant-dernière montée, c'était incroyable. C'est quelque chose de typique pour le Pays Basque. C'est une assez large route, mais les supporters font que une ligne, donc c'est vraiment spécial. Ça m'a vraiment poussé vers l'avant, surtout sur la dernière montée, la raid. Et sentir les supporters m'encourager est tellement fort, ça me donne la motivation, ça donne encore de extra force dans les jambes.
Voilà, une ferveur que l'on retrouvera à coup sûr dans un an, peut-être sera-t-elle même encore plus forte à ce moment-là. Il faut dire que pour l'instant, le Tour de France n'est absolument pas dans les têtes au Pays Basque. C'est l'été, on se baigne et on regarde un petit peu de vélo, mais on pense pas au Tour de France, pas tout de suite en tout cas.
Et on le comprend aisément, on a vécu une magnifique course hier et effectivement, ces routes sont vallonnées. Ça nous prédit un départ l'an prochain un petit peu atypique. On n'a pas l'habitude que ça grimpe tout de suite dans le Tour. En tout cas, Arnaud, ça nous fera encore un départ à l'étranger. C'est devenu la routine hein, ces dernières années sur le Tour.
une longue litanie hein, de villes voilà, qui ont accueilli à l'étranger les grands départs du Tour de France. On pourrait citer sur les 10 dernières années Leeds en Angleterre en 2014, Utrecht aux Pays-Bas en 2015, Düsseldorf en Allemagne en 2017, Bruxelles en Belgique en 2019 ou encore donc Copenhague et le Danemark en 2022. Le Tour de France s'élancera une nouvelle fois donc de l'étranger. C'est une vraie tradition finalement pour la grande boucle qui est aussi liée quelque part à une volonté d'exporter la marque. On fait du commerce à travers le Tour de France, mais il y a aussi quelque part, et on l'a bien vu cette année au Danemark, la volonté de s'imprégner finalement de la culture cycliste des autres pays. Et là, pour le coup, le Danemark nous a quand même donné une très très belle leçon à la fois de ferveur et à la fois de cyclisme. Ce sera donc le 25e grand départ à l'étranger, 69 ans après le premier qui s'était effectué dans les rues d'Amsterdam aux Pays-Bas. Là aussi, une ville ô combien cyclistement compatible, on va dire.
Eh oui, cyclo-compatible, effectivement. Arnaud, tu restes avec nous, évidemment, pour ce débat, toi qui es un observateur privilégié de la course cycliste pour RMC. Je vous pose cette question tout naturellement, les grandes gueules, est-ce que vous avez été oui ou non convaincu par le récent départ du Tour au Danemark, Cyril?
Convaincu oui, mais pas fan.
Convaincu oui, mais pas fan. Tu vas nous expliquer dans un instant pourquoi, Marie.
Ouais, moi j'apprécie les départs qui soient pas forcément en France, mais un petit peu plus proche de nos frontières. Donc j'ai pas été ravie du départ au Danemark.
C'est un non pour Marie. Marion Bartoli.
Pareil, pas ravie, et je pense que ça sera mieux dans le Pays Basque. Mais j'ai pas été vraiment enthousiasmée par le départ au Danemark.
Eh bien, on va commencer avec Cyril. Ce oui, mais pas fan, c'est-à-dire que. C'est-à-dire que tu vas nous expliquer.
Non, c'est juste que tu as voulu dire par là.
Non, c'est juste qu'en fait, je le répète, mais en fait, ce qui était exceptionnel auparavant devient banal. Maintenant, tous les ans, on va partir à l'étranger. Et puis, ça reste, pour moi, c'est le Tour de France. Donc, le Tour de France, la dénomination, c'est Tour de France. Pourquoi chaque année partir à l'étranger? Ça me dérange un petit peu. Après, on l'a vu quand même cette année que le Danemark avait une ferveur incroyable autour du vélo. Le Danemark qui est vraiment un pays de cyclistes, faut le dire. Hein. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 5 millions d'habitants. 60% du PIB se sentait concerné par ce Tour de France. On voit encore les images toutes récentes de Vingegaard qui est sur le balcon. Avec une place, mais qui est bondée. On a l'impression qu'il y a tout le Danemark qui est présent. Hein, pour
oui, et, non, mais c'était quasiment le cas.
Ouais, c'est ça. Et franchement, je trouve ça génial. Il y en a jamais vu autant de Danois au bord des routes. Enfin, c'est en France. C'était. Moi, je trouvais ça super bien. Mais ça me dérange un petit peu encore ce nom de Tour de France. Voilà, peut-être un peu trop chauvin. Hein, j'en sais rien. Mais le Tour de France, c'est le Tour de France. Pas voilà que les choses exceptionnelles ne deviennent pas banales. J'aime pas trop ça. Et après, c'est toujours intéressant. On sait que ça se fait bien aussi que ça parte à l'étranger. On sait pourquoi. Mais voilà, enfin.
C'est un argument qui revient, il n'y a pas à s'excuser, on a le droit de considérer que si on fait le Tour de France,
faisons le tour de la France,
un autre débat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, le Tour de France, mais nous, il ne passe jamais dans notre région, machin, on prétendait faire le Tour de France, mais en fait, bon. Ouais. Marion, toi, tu me disais, non, par avis par ce départ au Danemark.
Par avis, parce que pour faire un lien avec notre débat plutôt sur l'écologie, tu vois, quand tu vas au Danemark et que tu déplaces un Barnum pareil, tu vois, je pense que c'est quand même une logistique absolument colossale et que oui, alors pour les Danois, ça a été super, ça a été génial, en plus avec l'engouement derrière, c'était fantastique, mais là au moins, le Pays Basque, tu vois, c'est 50 km, c'est à côté, ça prive pas non plus forcément les Français d'aller voir le départ de leur Tour de France dans le Pays Basque, parce que ceux qui ont la chance d'être frontaliers, c'est pas un énorme déplacement en voiture, donc je pense que ça a quand même plus de sens. Après, je rejoins totalement Cyril, finalement, de banaliser comme ça ces départs quasi systématiquement à l'extérieur. Moi, je trouve que ça commence à me saouler un peu. Le faire, oui, je suis pas contre, attention, mais je sais pas, une fois tous les 4 ans, une fois tous les 5 ans, mais pas comme ça chaque année à répétition, tu vois. Ça doit quand même rester le Tour de France. Après, ça a été dit par Arnaud, je pense que sur le plan sportif, les 2-3 premières étapes qui vont être sur le Pays Basque sont nettement plus intéressantes parce que ce sont des routes connues, parce que t'as le Tour du Pays Basque, parce que t'as la classique de Saint-Sébastien. C'est des profils de course qui sont, je pense, plus excitants que ce qu'on a vu sur les premières étapes au Danemark. Mais pour moi, c'est vraiment la répétition des départs à l'étranger aussi que j'ai du mal à comprendre dans ce Tour de France.
Arnaud, avant de donner la parole à Marion, juste en un mot, toi, t'en as ras-le-bol de démarrer le tour à l'étranger? Tu comprends en tout cas quel est le son de cloche que tu entends? Alors, toi qui es au contact du public, est-ce que les gens sont plutôt comme nos grandes gueules ou est-ce qu'au contraire les gens sont enthousiastes?
Moi, je peux te donner mon son de cloche à moi. Ça fait 4 ans que je couvre le Tour de France. J'ai vécu donc 2 grands départs à l'étranger, à Bruxelles en 2019 et au Danemark en 2022, que j'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé le Danemark, c'était exceptionnel. La Belgique aussi, c'était exceptionnel. En termes de ferveur, voilà, il y a un amour pour le vélo. Désolé de le dire, je vais en choquer peut-être certains, mais qu'on n'a pas en France, que ça soit en Belgique ou au Danemark. Eh ben oui, mais voilà, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est la vérité. Les gens n'aiment pas le vélo en France. Les gens aiment peut-être le Tour de France, mais ils n'aiment pas le vélo. En France et en Belgique, les gens aiment le vélo. Au Danemark, au Danemark, non, mais c'est vrai, c'est la réalité.
Après,
au Danemark,
c'est dur.
Les gens aiment le vélo. Après, il y a une. Moi, personnellement, en tant que suiveur, j'adore les grands départs à l'étranger. Je les aimais beaucoup moins en tant que téléspectateur, en tant que voilà que simple spectateur. Donc, je peux comprendre. Je peux comprendre moi qu'on dise oui, le Tour de France, c'est la France. Voilà, il faut être ici. Après, je peux aussi vous dire que pour l'avoir vécu. De l'intérieur, les grands départs à l'étranger, il y a quelque chose, voilà, il y a un truc qui se fait qui est différent. Je suis désolé de le
mais
dire.
Mais tu trouves pas que c'est un petit peu trop répétitif?
Après, il y a la volonté aussi, et encore une fois, je le dis, on fait du commerce hein, du côté du Tour de France, de s'exporter à l'étranger. Hein, et c'est pas la seule société d'organisation de courses d'ailleurs qui fait ça, puisque le Tour d'Italie s'élance régulièrement de pays étrangers. On a eu Israël, on a eu la Hongrie, voilà. Donc ça existe aussi sur les autres courses. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Moi, je trouve ça bien aussi d'aller prendre. Est-ce que finalement, il n'y a pas une balance? Pardon?
Non. Est-ce que
finalement, il n'y a pas une balance positive? Je veux dire pour l'esprit vélo. Voilà, quand on est allé piocher, quand on a vu ce qui s'est passé au Danemark, est-ce que ça pourrait pas nous permettre de progresser dans notre façon de voir le vélo dans la société? Je sais pas. Moi, c'est une question.
Ouais, mais tu vois, on dit pas que c'est pas bien.
Ouais. On n'a pas encore entendu Marie. Un petit peu de ma faute, tu vas nous jeter un pavé ardennais hein, dans cette mare. Toi, tu n'as pas été justement. Du tout convaincu par ce départ au Danemark.
Non, mais justement, je pense que cette année, le Tour a commencé sur les pavés, que malheureusement, le Danemark n'a pas tenu ses promesses. Il n'y a pas eu le vent tant annoncé qui aurait pu coûter des bordures, faire un tour un peu qui commence d'une certaine manière avec une belle couleur et tout. Donc, je pense que ça n'a pas fonctionné pour ce qui est du Danemark. En revanche, le fait de commencer à Bilbao, d'être dans le Pays Basque, de commencer par de la montagne, ce qui s'est pas rarement fait, pourrait vraiment donner une jolie couleur et insouffler un départ sympa, qu'il soit à l'étranger ou pas. Après, c'est vrai qu'être privé de cette grande fête, des 3 jours de départ, de présentation des équipes et tout, c'est un petit peu frustrant, mais bon, je pense qu'on peut le partager ce tour parce
mais qui on est privé
Les Français, parce que si tu prends pas...
Quand t'as un grand départ à Brest, les Français ils vont pas à Brest, hein.
Si, les Brestois quand même déjà, donc ça fait quand même une partie des gens, tu vois. Non mais toi, tu l'as dit toi-même, Arnaud. Forcément, RMC paye ton billet d'avion et tu te retrouves là-bas. Donc voilà, c'est pas le cas des Français pour un départ au Danemark. Ça peut l'être pour un départ à Bilbao, tu vois. T'es quand même pas loin, donc ça peut être un peu exotique, mais pas trop loin. Il y a une différence à faire.
Est-ce que les gens voyagent vraiment pour aller voir le Tour de France? Il y a la culture du camping-car, effectivement.
Sur les pays frontaliers, quand même, ils font des déplacements.
Pour avoir couvert plusieurs éditions du Tour de France, effectivement, les gens qui voyagent, ils voyagent en mobil-home et ils aiment bien passer du temps sur le bord de la route.
Ouais,
je connais pas grand monde qui paye des billets de train ou des billets d'avion pour aller voir passer les coureurs.
Non, mais avec ton camping-car, tu peux aller à Bilbao, tu peux aller en Italie, peux aller en Suisse, tu vas moins facilement
au
Danemark.
Si tu habites à Lille avec ton camping-car, et la plupart des camping-caristes sont d'ailleurs des Flandriens, des gens du nord de la France, c'est plus facile d'aller à Copenhague presque que d'aller à Bilbao, hein, Marie. Il y a autant d'heures de route. Hein, si tu vas par là, tu vois.
Ouais, c'est un petit peu par les cheveux,
Je pense qu'il y a une différence. Ce que veut dire Marie, c'est qu'il y a une différence sur les pays frontaliers.
Oui, il me semble.
En Espagne, il y a une frontière avec la France. Voilà, c'est différent d'avoir un pays frontalier. Tu le ressens. Je sais pas, t'as moins l'impression que ça part vraiment de l'étranger. Tu vois, c'est quand même collé à la France. Il y a plein de Français qui sont à la frontière, qui peuvent aller faire le déplacement, et c'est finalement comme s'ils se déplaçaient dans leur département, pas avec le Danemark. Tu vois, alors tu peux toujours prendre l'extrême de la France avec par rapport aux Pyrénées, oui, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup plus de Français qui sont frontaliers qui vont pouvoir faire déplacement plutôt que d'aller se rendre au Danemark, où de toute façon il y a pas de frontière avec la France.
Donc, si je vous suis bien, les GG, oui, au départ à l'étranger, mais pas trop loin de chez nous quand même. Voilà.
Ou alors avec un vrai intérêt sportif qu'on n'a pas retrouvé au Danemark.
D'accord. On embrasse nos amis danois. Ça a dû leur faire plaisir.
Non, mais on était contents d'aller. Mais attends, on était contents d'aller au Danemark, mais que ça doit rester une rareté. Moi, je rejoins Cyril, c'est juste sur la manière répétitive. On n'est pas franco-français, franchouillard en disant ouais, il faut absolument que ce soit en France. On comprend que ça soit effectivement un événement, une marque qui se vend, mais juste pas chaque année, tu vois.
Voilà, l'ambassadeur du Danemark qui a fait le 32-16 Marie, il sera dans les GG dans un instant, il va venir s'en plafonner
avec toi. Je vais apaiser.
On a hâte de vous faire vivre ce moment sur l'antenne. On revient dans...
Le prince héritier parle un français parfait d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il écoute les GG tous les samedis, tous les dimanches. Merci beaucoup Arnaud d'avoir fait des tours dans les grandes gueules et à très vite. RMC les auditeurs, vous ne bougez pas parce que dans un instant, c'est à vous jouer. Vous savez que la dernière ligne droite de l'émission, elle est toujours consacrée à régler vos comptes entre vous et les grandes gueules si vous avez entendu des choses qui vous ont agacé durant l'émission. Il est encore temps de faire le 32-16. Amina vous attend. Les GG et vous dans un instant sur RMC.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Demain, retrouvez vos grandes gueules en direct sur RMC à partir de 9h pour 3 heures de débats d'actualité comme tout l'été. Kaouter Ben Mohamed, Jérôme Marty le médecin, l'avocat Charles Consigny et face au GG, le député Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. À demain, 9h sur RMC.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.
Votre émission sur RMC avec... Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans au service de votre sécurité.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h46, vous êtes bien sur RMC, c'est le retour des grandes gueules du sport dominical pour la dernière ligne droite de cette dernière émission du mois de juillet, dimanche 31 juillet. Vous savez que c'est toujours un honneur sur RMC d'être le premier relayeur de ce qui est toujours une grande journée de sport à vivre dans l'ordre ou le désordre. Aujourd'hui sur l'antenne, le Grand Prix de Hongrie, 13e manche de la saison du championnat de Formule 1 sur le Hungaroring. George Russell, le pilote britannique, qui signe la première pole position d'une monoplace non Ferrari ou non Red Bull.
Cette saison,
c'est quand même à souligner. Max Verstappen partira de la 10e position. Une course à vivre évidemment en direct en intégralité sur RMC avec Jean-Luc Roy, le king des sports auto sur RMC, au commentaire. La 8e et dernière étape du Tour de France femme et l'arrivée à la super planche des belles filles, ce sera à suivre évidemment avec Valentin Jamin. Et puis le trophée des champions, on en parlait il y a un instant avec Timothée Mémon. À 20h, PSG, Nantes, le retour du foot de club, le premier match officiel de la saison. Tous ces événements évidemment à suivre en live sur RMC, le temple du sport en direct à la radio. Mais pour l'instant, avant de laisser la main au Paris RMC, à Benoît Boutron et toute la bande des flambeurs, on donne la parole aux auditeurs, les GG.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
Et on est ravis d'accueillir Vincent qui a fait le 32-16. Salut Vincent, bienvenue dans les grandes gueules du sport.
Bonjour les GG.
Salut Vincent.
Vincent, tu nous appelles d'où ? Est-ce que tu es en vacances ? Que fais-tu ?
Je suis en week-end dans le Cantal.
En week-end dans le Cantal.
Ah, c'est Cantal.
C'est ma région, ça, d'origine.
De Royal, je crois, on m'indique.
À l'origine, oui, je vis à Royal, à l'origine. Mais c'est pas la première fois que je passe. D'habitude, je suis plus sur le rugby, mais là, bon. Je suis venu un peu sur autre chose.
Et là, tu t'es chauffé sur quoi ? À qui veux-tu t'adresser ? Qui t'a agacé un petit peu ce matin et sur quel thème ?
Pas agacé, mais c'est une différence de point de vue qu'on a avec Cyril et Marion, ce sera sur Paul Pogba.
D'accord, on t'écoute.
Ce que j'entends dire que ce serait préjudiciable et tout. Alors, le Paul Pogba de 2018, je suis entièrement d'accord avec eux, ce serait très préjudiciable s'il n'était pas en équipe de France. Là, actuellement, malheureusement, il enchaîne depuis la Coupe du Monde 2018 les mauvaises performances en club. Il est perdu indiscutable. Il retourne à la Juve. Il ne sera pas 100% s'il doit être à la Coupe du Monde. Est-ce que se passer de Pogba, ça sera un coup dur ? Peut-être. Est-ce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour passer au-dessus ? On aura un Camavinga, on aura un Tchouaméni, on aura un Guendouzi, potentiellement Camara. Si son implantation à Aston Villa se passe bien, avec un coach comme Steven Gerrard, si le voulait, on peut penser qu'il va quand même progresser sacrément. Et derrière, j'entendais Cyril plus sur l'aspect leader. Leader, oui. On a un mec qui s'appelle Karim Benzema. Il marche sur l'eau. Ça fait 2 ans, il porte le Real tout seul sur les épaules. Il ne faut pas être méchant, mais au Real, je pense qu'on a quand même la même qualité qu'en équipe de France sur plusieurs postes.
Alors, oui, Vincent.
Il est de grands leaders en équipe. Je pense qu'il sait que c'est son dernier mondial. Et je pense que rameuter les troupes, il l'a fait.
Alors voilà, parce que tu arrives sur le terrain que défendait notamment Cyril, qui lui effectivement misait sur le rôle de leader d'un Paul Pogba qui ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Qu'est-ce que tu réponds à Vincent?
Non, bah c'est surtout qu'en plus il a le palmarès pour lui, c'est Pogba, il a été champion du monde 2018, pas Benzema, donc aujourd'hui oui, il peut dire ce qu'il veut, il est très fort, il va être Ballon d'Or, il y a pas de problème, mais il avait pas l'équipe de France en main, mais il était pas leader de cette équipe de France déjà depuis un moment. Il revient par la grande porte parce que justement il s'est créé l'opportunité de revenir de par ses résultats, parce que c'est le meilleur et il y a aucun problème avec ça. Mais par contre non, moi je sais pas si aujourd'hui c'est Karim qui est capable de prendre la parole dans le vestiaire, je sais pas. Après oui, sportivement je te rejoins, on a un mitard extraordinaire en France où on a c'est du choix du roi, hein, aujourd'hui. Je pense que à beaucoup de reprises, Deschamps nous a prouvé qui faisait plus passer l'aspect équipe, l'aspect groupe que plutôt les individualités. Et aujourd'hui, je pense qu'il comptait sur Pogba pour faire avancer le groupe.
En tout cas, pour abonder dans le sens de Vincent, je suis d'accord avec lui. Karim Benzema a montré des qualités de leader. Hein,
je suis souvent d'accord avec les auditeurs, quand même.
Oui, ils s'en prennent souvent à moi, mais bon, écoute, c'est grâce à eux que je remplis le frigo aussi. Hein, je suis obligé de les mettre.
Vincent, je te rejoins sur le potentiel de cette équipe de France au mitard. Il y a des forces de frappe extraordinaires et c'est très très fort en équipe de France.
En tout cas, on remercie Vincent d'être venu défendre son point de vue dans les grandes gueules du sport.
C'était clair.
Bonne fin de week-end dans le Cantal, Vincent. Et à bientôt sur RMC.
Simon,
oui.
Je pourrais ajouter quelque chose ou pas?
Bien sûr, très rapidement.
Alors, je vais juste remercier les GG du sport parce que je suis auditeur régulier, donc vous remerciez et remercier Amina parce qu'on est. Moi, je réagis beaucoup sur le direct studio. J'appelle pas le 32-16 et j'ai le plaisir qu'elle me rappelle pour me faire passer avec vous et pour échanger. Même si parfois il y a des prises de bec, comme j'ai eu parfois avec Marion, notamment sur le rugby à la dernière finale Top 14, c'est toujours un plaisir d'échanger avec des stars qui nous ont fait rêver.
T'es adorable, Vincent.
C'est toujours un plaisir et j'espère que ça va continuer l'an prochain encore à pouvoir se mettre à portée de gifle et pouvoir en prendre également quand on est amateur, ça fait plaisir.
Allez là,
merci Vincent.
Je suis à Clermont sinon parce que moi j'ai Denis Charvet, je l'attends toujours pour une prefade, donc j'aimerais bien l'avoir.
Oui, alors tu sais, Denis Charvet c'est pas le plus fiable de la bande. Hein. On va plutôt confier l'organisation de tout ça à Pierre Habiche, qui est quelqu'un d'un petit peu plus sérieux. En tout cas, Vincent, on a souvent l'occasion de le répéter et c'est ça qui fait un petit peu la spécificité de RMC, c'est que justement ce lien entre ces anciens sportifs qui se transforment en journalistes de talent, en éditorialistes de talent, ce lien entre vous, les auditeurs et nos consultants de la Dream Team, c'est l'une des promesses de RMC et on est ravis lorsque vous reconnaissez son utilité et cette richesse, on est ravis de vous la faire partager. Merci beaucoup Vincent, bonne fin de week-end dans le Cantal et à très vite sur l'antenne de RMC. On accueille Malcolm qui a fait le 32-16. Salut Malcolm, bienvenue dans les grandes gueules.
Merci. Salut, désolé.
Comment salut, ça va Malcolm.
Salut et merci. Ben salut. Bien sûr. Malcolm, sur quel thème souhaitais-tu réagir
Je voulais réagir sur l'étoile à Laval.
Ou c'est pour Cyril, ça.
Je suis d'accord, mais aussi en désaccord avec Cyril.
On t'écoute.
Dans le sens où je suis d'accord avec lui, dans le sens où Laval qui met l'étoile pour la National 1, c'est un peu du grand n'importe quoi. Le souci, c'est qu'il profite du fait qu'il n'y ait pas de règles en France. Et que normalement, alors l'étoile, c'est pas pour la Ligue des Champions. Il y a très peu de clubs qui la mettent pour être champion. Et ce n'est aucun club, on va dire, actuellement aucun club favori pour la Ligue des Champions qui l'a déjà gagné, mais une étoile pour la Ligue des Champions. Actuellement, ils ont le nombre de leur C1 sur le bras gauche, ou bras droit, je ne sais plus c'est quel côté. Le truc, c'est que normalement, les étoiles, surtout pour les titres. Alors en Allemagne, par exemple, ils sont très, très, très stricts, où c'est une étoile pour 3 titres, 2 étoiles pour 5 titres, 3 étoiles pour 10 titres, et ensuite, ça va de 10 en 10. En France, c'est 10 étoiles pour, enfin, une étoile pour 10 titres de champion. Comme on n'a pas de règles, l'OM a pu en profiter pour mettre une étoile pour être des champions. Mais à partir du moment où on n'a pas de règles, Laval peut se permettre de mettre une étoile. C'est esthétique, hein. Autant pour être des champions que pour la N1, c'est esthétique. Ça n'a pas la même valeur, je vous l'accorde, mais c'est esthétique.
Mais Cyril, je crois que tu ne contestais pas le fait d'avoir le droit, parce que tu as dit on peut en mettre quand on gagne le concours de pétanque de je ne sais pas où.
Mais nos gens le retrouvent. j'entends ce que tu dis, il n'y a aucun problème avec ça. Je dis juste qu'en fait, bien sûr que s'il n'y a pas de règles, on peut faire ce qu'on veut, mais à partir du moment où ça a été fait, alors peut-être c'était pas les premiers, on est bien sûr, mais si Marseille le met après la Ligue des Champions, je parle du foot. Nous, par exemple, quand je te dis au judo, Teddy Riner, il a mis 10 étoiles sur son kimono parce qu'il est 10 fois champion du monde. Je vais pas aller mettre une, je vais pas aller mettre 5 étoiles moi de mon côté parce que je suis 5 fois champion de France. Tu comprends ce que je veux dire?
Après,
il y a peut-être un autre logo pour dire quoi là. C'est voilà, on met, je sais pas, un petit un anneau, enfin ce que tu veux, je sais pas, mais un petit pingouin ou pour dire qu'on est pour dire qu'on est champion.
Un papa Noël.
Non. Non mais je plaisante bien sûr, mais en vrai si on peut avoir une distinction parce que ouais, je dis bravo à Laval pour ce titre parce que c'est important aussi et c'est comme ça que ça avance. Moi je suis supporter de Dijon, même si je me suis trompé pour le match à l'ouverture qui était à domicile, mais supporter de Dijon, on est passé par le national, on est monté Ligue 2, on a fait 5 années en Ligue 1. Ben voilà, moi je sais que c'est important pour les supporters. Après aujourd'hui, moi c'est juste par principe, même si c'est pas notifié quelque part avec un règlement pour dire l'étoile c'est que pour la Ligue des Champions. Nous au judo, Teddy il l'a fait pour champion du monde, c'est pas la Ligue des Champions, c'est champion du monde. Enfin, je me vois pas non plus la mettre pour le titre interrégion.
Bah, il aurait pu choisir un autre truc, Teddy. Pourquoi il a choisi l'étoile?
Non, mais en plus, t'as le courage de défendre effectivement ton opinion. On a quand même le droit, on n'est pas tous obligés de saluer.
Il a mis un cercle par exemple pour titre olympique. Il a deux cercles, alors que finalement les Jeux c'est plus important que les mondes. Et aujourd'hui, il a 10 étoiles parce que champion du monde. Voilà.
Quelle folie.
On remercie Malcolm d'avoir composé le 32-16 et d'être venu défendre son point de vue dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup les GG, Marie, merci Marion, Malcolm, Cyril,
merci.
De m'avoir accompagné, d'avoir accompagné les auditeurs en ce dimanche. Moi, je remercie Pierre Abiche et Jean-Christophe Drouet pour leur confiance. Je me suis régalé cette saison à vos côtés, les GG. J'embrasse Christophe Cessieux, évidemment, pour qui j'ai une petite pensée. Ça fait hocher la tête Benoît Boutron, à qui je vais passer la main. On va parler un petit peu argent, oui. Benoît, t'as bien l'argent.
Toujours important de penser aux personnes âgées quand il fait chaud. On espère qu'il prend soin de lui, Christophe.
Il
faut s'hydrater surtout et rester à l'ombre.
Les paris dans un instant avec toi, Benoît.
Dans un instant avec d'autres personnes âgées, effectivement. Christophe Payet sera là, Jean-Luc Roy sera là également. Voilà, on va parler du trophée des champions entre le PSG et Nantes à Tel Aviv.
Ah oui,
là ça va être festival jusqu'à 13h. Et puis on a pas mal d'actu à Omnisport. On a aussi la finale, d'ailleurs Marion, de Caroline Garcia à Varsovie. Il pleut en ce moment à Varsovie.
Oui.
On espère que la finale pourra se tenir.
Quand qui elle joue?
Elle joue contre Bogdan, la Roumaine.
C'est bien, bravo, t'as bien poussé.
Ouais, ça c'est cadeau.
Bravo.
Mais c'était une question piège, je croyais que c'était une vraie question.
Je vais te donner mon avis. Évidemment, que Marion sait contre qui Caroline au final.
Non, mais ça va pas, non, Marion.
Plus dur. À quel stade de la compétition elle a battu Swiatek? Plus dur.
En quart de finale.
Bravo.
Non, mais attends,
c'est bon à
Guignol.
C'est un des meilleurs d'entre nous.
On n'est pas tous Simon Dutin, Marion Bartoli.
Vous pouvez lui entendre ça.
Bon, bref, les paris RMC qui arrivent dans un instant. Merci Marion, merci Marie.
Bonne émission, les gars.
Et salut Simon, à tout à l'heure.